Give me a U! Give me a C! Give me a K! What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell?
One, two, three, four.
I thought he'd never leave.
Well, I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. But I'm planning to go away. Now I am real.
Et bonsoir, les bébés dinosaures sont avec vous. Comme presque tous les soirs d'août, par surprise. Tommy Boy à votre service, Sylvain reviendra la semaine prochaine, c'est-à-dire le 27 août, si mes calculs sont bons. Non, qu'est-ce que je raconte? On est le 27 août, mes calculs ne sont pas bons, Sylvain reviendra le 3 septembre. Et pour le moment, c'est Tommy Boy, bah, vous le voyez, ça commence bien, des bébés dinosaures, une vraie émission de bébés dinosaures ne se passe jamais sans un certain nombre de foirages plus ou moins importants. Et quand même, pour vous rassurer, parce que c'est une émission de rock des années 70, parce qu'on est ensemble sur Canal Sud 92.2 MHz de 21h30 à 23h comme tous les dimanches, et comme c'est un groupe qu'on passe pas assez souvent, même s'il symbolise un peu la période qui nous occupe, on va commencer avec du Led Zeppelin. Alors comme on a passé tous les Led Zeppelin en long, en large et en travers pendant les 30 ans de l'émission, ça fait rien, on va passer un morceau qu'on a sans doute pas tellement passé beaucoup souvent. Ça s'appelle Out on the Tiles, c'est la fin de la première phase du troisième album. Et attention, hein, je vous le passe en vinyle et j'ai avec moi la pochette rigolote où on peut passer tout son temps en écoutant le disque à regarder quelles images ont fait surgir dans les petites fenêtres rondes en faisant tourner le disque intérieur de carton qui était sur... non pas le pressage original, non pas la pochette originale, mais la deuxième pochette est la plus connue, sous laquelle ce disque est sorti vers 1971, si je calcule bien. Led Zeppelin, Out on the Tiles.
Shut up!
Oyster Cult, bien sûr. Ah ouais, les habitués de l'émission ont reconnu tout de suite. Blue Oyster Cult en public, dans un festival qui s'appelle toujours Rock of Ages. Il doit se tenir une fois par an en Allemagne. Et là, c'était en 2016. Le 30 juillet 2016. Donc, il y a 7 ans, si je calcule bien. Et ça fait partie de la salve d'albums live sorti en 2020 par, en même temps qu'un nouvel album studio, par le label actuel des Blue Oyster Cult, qui est Frontier Records. Ce n'est plus CBS, c'est plus un aussi gros label. Mais les Blue Oyster Cult continuent de faire des choses. On s'est écouté une bonne partie du nouvel album studio il y a quelque temps, hein, The Symbol Remains, peut-être qu'on y reviendra. Et là, c'était un morceau plus classique, puisqu'il est tiré à l'origine de leur album... Cultus Horus Erectus, celui sur lequel il y avait The Marshall Plan et Black Blade et des choses comme ça. Bien, qui était une sorte d'album de renaissance pour le culte, après un très mauvais album, là, Mirrors. Après ça, vous savez rien en fait, mais on n'y est pas encore, on n'arrive pas encore à Deep Purple. Vous savez que quand il n'y a pas Sylvain, l'envie irrépressible me prend de passer du Deep Purple. Pour le moment, on va parler d'un gars moins connu qui vient de mourir cette semaine, Bernie Marsden. Et Bernie Marsden était un peu le sideman de tout le monde. C'est un musicien qui est très talentueux apparemment, mais qui manquait d'ego et qui a été embauché par tout un tas de groupes pour ses talents de guitariste. Et c'est aussi quelqu'un qui, à la fin de sa vie, là, avait accumulé, paraît-il, une collection de guitares tout à fait remarquable et aidé certaines grandes marques de guitares à concevoir des modèles nouveaux qui portaient son nom. Donc un spécialiste de la guitare, un amateur de blues surtout en fait. Mais le hasard a voulu que quand il avait 22 ans ou quelque chose comme ça, il était dans un petit groupe qui allait pas loin, les gens lui ont dit, il faut que tu passes professionnel, il a passé une audition, et c'était UFO qui avait besoin d'un guitariste. UFO qui venait sans doute de se séparer de Larry Wallis, qui avait été brièvement dans le groupe, hein, avant de faire partie de Motorhead, brièvement aussi, et puis de se retrouver dans des groupes qui portaient son propre nom, et peut-être certaines incarnations des Pink Fairies, et choses comme ça. Mais Larry Wallis n'a pas fait long feu dans UFO, il avait brièvement remplacé Mick Bolton, le premier guitariste, celui qu'on entend sur les deux premiers albums studio, avec des solos qui sont longs, mais qui parfois tirent un peu à la ligne. Et Bernie Marsden, lui, il voulait être un joueur de blues rock cool. Et puis le reste du groupe, d'après dans ses propres paroles, il voulait être Kiss. Et donc, ça n'a pas trop bien marché. Il a fait une tournée avec eux. Et il y a un disque semi-pirate de UFO public avec 6 morceaux assez longs qui ont Bernie Marsden dessus. Puis on pensait qu'il n'y avait que ça. Mais bon, en fait, on a trouvé quelques démos. Donc on va s'écouter une démo de UFO avec Bernie Marsden. C'est pas le truc qu'il a fait de plus connu, hein. Certains d'entre vous sont en train de trépigner, de me dire, mais pourquoi il ne parle pas du calme. du calme. Le cardiologue de Sylvain m'a interdit de... Bon, donc on va écouter Bernie Marsden avec UFO et peut-être qu'on raconte après le morceau comment Bernie Marsden a quitté UFO et comment UFO s'est retrouvé avec bien sûr Michael Schenker comme guitariste. Alors, voici une version démo de Oh My qui ensuite a été réenregistrée avec Schenker sur l'album Phenomenon. Voilà, UFO, c'était le premier vrai job de Bernie Marsden à la musique, mais ça tricotait déjà, hein, comme vous pouvez le voir. Excusez-moi, il y a des choses qui m'échappent un peu. C'est le dinosaure, après tout, on n'a que quatre pattes. Et encore, on n'a pas une ronde pour en coordonner plus d'une à la fois. Donc, Donc Bernie Marsden a passé quelques temps avec UFO, enregistré quelques démos pour l'album Phenomenon, qui ont été remplacés, ou sa guitare a été remplacée par celle de Michael Schenker plus tard. Et comment est-ce que finalement il a quitté le groupe, hein, il se sentait pas à l'aise, c'était pas son genre de rock, il voulait pas faire le truc flashy. Et puis les Scorpions jouaient parfois en première partie de UFO dans leur tournée allemande, et il a observé Michael Schenker qui jouait, il a dit aux autres du groupe UFO, c'est celui-là qu'il vous faut, pas moi, c'est celui-là qu'il vous faut, prenez-le. Et c'est quand même un exemple d'altruisme assez rare dans le domaine du rock'n'roll. Et c'est ce qui a été fait, voilà. Et de ce côté, Bernie Marsden, un jour, qui jouait en compagnie de Wild Turkey, le groupe qu'avait formé Glenn Cornick. Ah, vous savez tous qui était Glenn Cornick. Le bassiste, le premier bassiste de Jeff Rotter, bien sûr. Et qui s'est barré au bout d'un moment. Le patron du groupe, Ian Anderson, disait, oula, lui, il vivait la vie du rock'n'roll beaucoup plus intensément que nous et ça n'allait plus. Bon, il y a peut-être un peu de calomnie là-dedans. Quoi qu'il en soit, Glenn Cornick a fondé Wild Turkey, qui a fait deux albums raisonnables, en particulier Battle Hymn, qui est pas mal du tout, un espèce de concept album antimilitariste. Et à cette époque-là, je pense qu'il avait déjà fait les deux albums, hein, et il n'y a plus de guitariste, il avait besoin d'un guitariste. Bernie Marsden est allé le voir en lui disant, je crois que tu cherches un guitariste, ça t'intéresse? Et Glenn Cornick a dit lui oui tout de suite, et donc Bernie Marsden s'est retrouvé dans Wild Turkey, mais il n'a pas enregistré l'album avec eux. On doit trouver sa guitare sur quelques-unes des raretés qui ont été sorties plus tard, pour ceux qui savent qu'il existe des CD de raretés de Wild Turkey, parce que déjà faut connaître le nom du groupe. C'est aussi, oui bien sûr, c'est aussi le nom d'un alcool, hein, mais bref, nous reviendrons à l'histoire de Bernie Marsden un peu plus tard, et pour nous chauffer, vous verrez plus tard pourquoi, à part le fait que c'est pour énerver Sylvain si jamais il écoute cette émission, pour se chauffer on va s'écouter un peu de Deep Purple. Alors bon, j'ai pris un morceau d'un album assez méprisé de Deep Purple, parce que c'était l'album de la descente, c'est celui qu'ils ont fait après Machine Head. C'était toujours Deep Purple Mark II avec Gillan et Glover en 1973, oui, enfin il l'a enregistré en 72, mais c'était fait à peu près à la même époque qu'ils se préparaient à faire leur tournée qui a donné lieu à Made in Japan. Mais l'inspiration n'était plus, la volonté de bosser n'était plus, ils ont passé beaucoup de temps à Rome et dépensé beaucoup d'argent pour enregistrer une chanson, et après ils ont fait le reste un peu à la va-vite en Allemagne, quelques mois plus tard. Et ça se sent, il y a quand même des morceaux très chiants dans cet album qui s'appelle Who Do We Think We Are. Mais bon, quand même, si vous les écoutez par un, il y a des trucs qui peuvent être pas mal. Et on va s'écouter donc, après cette introduction qui vous convainc peut-être de fermer vos oreilles, Smooth Dancer, qui a l'intérêt d'être un morceau dont on peut interpréter les paroles, signé par Gillan bien sûr, comme une sorte de déclaration d'énervement, voire d'un peu plus, vis-à-vis de Ritchie Blackmore, qui quand même lui menait une vie assez dure pratiquement depuis le début, après l'avoir embauché dans le groupe. Mais bon, Ritchie Blackmore, hein, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, Smooth Dancer, you can, des choses comme You Can Never See The Sun because it don't shine nightly, c'est-à-dire tu peux jamais voir le soleil, évidemment il brille pas la nuit, c'est allusion aux horaires un peu inhabituels de Ritchie Blackmore. Deep Purple.
Cause I'm a free
Smooth Dance, donc une chanson qui, si on la prend au premier degré, est adressée à une paire de chaussures en daim noir, black suede. Mais black suede, black mort. Bon, ce pauvre Bernie Marsden, donc, qui est décédé cette semaine, à l'âge de 72 ans, qu'est-ce qu'il a fait après UFO? Donc, il est passé dans Wild Turkey. Et qu'est-ce qu'il a fait après Wild Turkey? Eh bien, il connaissait Cozy Powell. Alors, j'ai oublié comment il a fait. Enfin, il connaissait pas mal de monde, hein, au bout d'un moment. Et Cozy Powell l'a embauché dans un groupe qui s'appelait Hammer, qui était le groupe de Cozy Powell. Alors, Cozy Powell est devenu ensuite connu. Alors, il était connu parce qu'il avait joué dans la deuxième version du Jeff Beck Group, hein, quand même. Donc, Bernie Marsden était très impressionné d'être embauché comme guitariste par Cozy Powell. Il disait, je prends la place de Jeff Beck. Plus tard, il est devenu batteur de Rainbow. Ouais, ça, voilà. Ça, c'est ce qui lui a assuré le plus de notoriété. Et Cozy Powell, donc, embauche Bernie Marsden pour travailler dans Hammer, qui est un groupe qui est signé par RAC, le label de Mickey Most, qui avait Suzy Quatro, par exemple, et Mud, et des choses comme ça. Et ils font des singles, ils veulent faire un album, et Mickey Most leur dit non, je vous ferai pas faire un album, parce que vous êtes des musiciens qui savez ce que vous voulez faire. Et moi, j'ai l'habitude de travailler avec des gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire et à qui je peux donner des ordres. Ce qui montre que il avait un certain mépris pour son écurie d'artiste. Mais en tout cas, Hammer, du coup, très découragé par le fait qu'on ne le laisse pas faire un album, se sont séparés et Marsden s'est retrouvé sans job. Mais ça n'a pas duré longtemps. Parce que il a tout de suite eu un coup de téléphone de Steve Girl, qui était un gars qui avait travaillé avec lui dans Wild Turkey, et qui se retrouvait maintenant dans Babe Ruth. Alors Babe Ruth, on vous en a passé, hein, si vous avez écouté, si vous avez retenu. C'était un groupe anglais qui avait un bel éclectisme. Hein. Ils ont fait quelques morceaux qu'on peut classer dans le glam rock, d'autres qui sont plutôt du progressif, plein d'orgues ou des choses comme ça. Ils ont fait des reprises de musique d'Ennio Morricone. D'Ennio Morricone. Ce qui est quand même un peu inhabituel. Ils ont un peu tout fait. Mais là, ils en étaient après leur troisième album. Ils avaient déjà fait trois albums. Le membre principal du groupe qui s'appelait Alan Shacklock, je crois, hein, quelque chose comme ça, l'avait quitté. Ils avaient besoin de gens, hein, qui. Alors, je cherche le prénom, oui, Alan Shacklock, c'est ça. Il y avait encore la chanteuse quand même, Yanita Han, ou quelque chose comme ça, enfin. Oui, Yanita Han, surnommée Jenny Han, qui de temps en temps poussait la gueulante de magnifique façon. Et donc, ils embauchent Bernie Marsden, qui va rester dans le groupe et qui va rester pour le quatrième et le cinquième album du groupe. Alors, le cinquième, tous les membres s'étaient barrés. Il restait Marsden qui était là et qui a un peu tenu la boutique. Le quatrième s'appelait Stealing Home. Il est sorti en 75. Et on va s'écouter le morceau qu'ils ont laissé écrire à Marsden pour cet album. Ça s'appelle Winner Takes All.
More and more, winner takes all. That's It's in my blood and I have to pay. Today is my cleanest score. Winner takes all. That's the stakes you play for. Winner takes all.
Winner Takes All, Babe Ruth. Pour une raison bizarre, ce groupe anglais avait choisi le nom d'un célèbre joueur de baseball américain pour le nom du groupe. Mais c'est pour ça qu'ils avaient des albums qui s'appelaient First Base ou Stealing Home, comme celui-ci. C'est des expressions de baseball. Donc le quatrième album de Babe Ruth en 75. Et qu'advient-il de notre brave Bernie Marsden après ça? Eh bien, bon, quand il quitte Babe Ruth, si mes souvenirs sont bons, il cherche à nouveau un job et il voit que y a Pace, Ashton & Lord qui font une publicité, qui ont passé une petite annonce sur le fait que il cherche un guitariste et donc il va à l'audition. Il va à l'audition et il sait que Pace et Lord ont été dans Deep Purple. C'est là que Deep Purple entre dans l'histoire de Bernie Marsden. Mais lui, Bernie Marsden, il aimait pas trop Deep Purple. Et il avait pas écouté leurs albums et tout. Il s'est dit, bon, que j'y vais. Et il arrive là-bas, il y a une dizaine d'autres guitaristes qui attendent de passer. Et puis, il y a un copain à lui. Et le copain à lui, le voit arriver, il dit bonjour à Elisev. Il dit à tout le monde, eh ben les mecs, plus besoin que vous restiez. Voilà le gars qui va avoir le job. Parce qu'il le connaissait, il avait beaucoup d'appréciation pour ses talents de guitariste. Alors, bon, enfin, Bernie y va, et il est un peu timide, il dira après, peut-être que c'est parce que j'étais le seul à pas leur jouer les chansons de Deep Purple qui m'ont pris. Parce que Pace, Ashton & Lord, c'était assez différent de Deep Purple, vous allez voir. Et puis, donc il y a un peu timide, il dit, écoutez... je connais aucune de vos chansons, sauf peut-être Dance on the Water. Alors John Lord sourit gentiment, lui dit, jeune homme, vous voulez dire Smoke on the Water. Oui, c'est ça, mais enfin, je la connais pas vraiment entièrement, je connais le riff. Et John Lord lui répond, mais le monde entier connaît ce riff. ce qui est vrai. Et mais ça fait rien, il joue à l'audition, il emporte le job. Et donc, il co-écrit une partie des morceaux de l'unique album de Pays Session and Lord, parce que finalement, le groupe n'a pas duré, n'a pas eu beaucoup de succès, c'est sorti en 77, c'était vraiment pas... il cherchait à faire une espèce de rock calme, matinée de funk, et à l'époque, il y avait le punk qui sortait, donc c'est fait partie de ces groupes qui ont été balayés par l'histoire. Et donc voici un morceau dans lequel on entend un peu Bernie Marsden quand même. Ça s'appelle On the Road Again, Again si on croit à la pochette. On the Road Again seulement si on croit à l'étiquette. C'est pas celui de Can't Hit, ne vous en faites pas. Et donc c'est celui de Pays Session and Lord co-écrit avec ces trois-là et Monsieur Marsden. Donc, Bernie Marsden avec Pays Session and Lord. Pays Session and Lord, il n'y a pas de and. Hein. Et le groupe était abrégé en PAL, PAL, donc un copain en anglais. Hein, chez nous, c'est plus la marque de bouffe pour chien, mais Pace Action Lord donc font un album, commencent à en enregistrer un deuxième, mais bref, ça marche pas. On doit trouver ces morceaux-là quelque part sur des rééditions CD augmentées du premier album. Bernie Marsden se retrouve à nouveau à chercher un job, mais quelqu'un lui propose un, parce que enfin il est toujours en contact avec Cozy Powell. Et Cozy Powell lui dit tiens, je vais te présenter David Coverdale, qui avait été le chanteur dans la version Mark III de Deep Purple. Et puis Coverdale l'entend jouer et il dit ah, mais j'avais aucune idée que tu jouais comme ça, dis donc. Parce qu'effectivement, dans Pace Action Lord, les talents de Bernie étaient quelque peu sous le boisseau. Et tout de suite, ils se mettent à écrire des chansons ensemble. Et c'est là que Bernie Marsden va faire le truc qui va le rendre le plus célèbre, c'est Whitesnake. En fait, Whitesnake, bon, c'est David Coverdale, avec derrière des musiciens qui veulent faire du blues rock et qui font du blues rock. Et Bernie Marsden écrit pas mal de chansons, y compris certains des plus gros tubes du groupe, s'il y en a, mais il y en a. Et si on écoute l'album, le double album live, Live in the Heart of the City ou From the Heart of the City, je ne sais plus. Ce qui est assez rigolo, c'est que sur les 5 membres du groupe, il y en a 3 qui étaient dans Deep Purple Mark III. À savoir Ian Paice et John Lord, plus David Coverdale. Et Paice et Lord ayant rejoint le groupe progressivement, peut-être cette fois-ci amené par leur ex-guitariste Bernie Marsden. Et en fait, Bernie Marsden raconte dans des interviews que c'est toujours très bien entendu avec John Lord et que c'était un mec qui avait beaucoup d'humour, qui était très sympa et qui roulait pas des mécaniques, même s'il aimait bien faire des tours aux gens dans sa Rolls-Royce quand même. Bon. Où en étions-nous ? Et donc, je ne vais pas passer du Whitesnake parce que, bon, là, c'est quand même. Je sens que Sylvain était en train de se remettre difficilement de ce que j'ai déjà passé. Parce que... Il y avait déjà eu Deep Purple, mais non, alors pas de Whitesnake. Peut-être une autre fois, on ne sait jamais. Et on va passer à autre chose. Vous savez qu'on a une rubrique Lou Reed toutes les semaines jusqu'à Halloween prochain. Donc Sylvain vous fait Lou Reed des années 70 de façon chronologique et raisonnable. Moi, je pêche à droite à gauche dans sa carrière, en particulier dans les albums tardifs dont peu de gens ont entendu parler, enfin peu, en tout cas, ou dont nous n'avons qu'une conscience vague. En voici un qui s'appelle Set the Twilight Reeling. Ouais, je sais. Set the Twilight Reeling. Faire rouler le crépuscule. Comment dire? Ouais. Quoi qu'il en soit, on va passer à un morceau qui a un titre dont vous vous souviendrez sûrement. Ça s'appelle Sex with Your Parents. Entre parenthèses, Motherfucker Part 2. Oui, oui, Lou Reed, apôtre du bon goût et des convenances, nous le savons. À la différence de l'album qui est sorti en 96, hein, de Set the Twilight Reeling, celui-ci était enregistré un an avant en public, le 4 juillet 1995. Quelle manière de célébrer la fête nationale, Lou Reed. Sex with your parents.
I was thinking the things that I hate to do. Sex with your parents. Things you do to me or I do to you, baby. Sex with your parents. Something fatter and ugly than Rush Rambo. Something more disgusting than Robert Dole. Something pink that climbs out of a hole. And there was sex with your parents. I was getting so sick of this right-wing Republican shit. These ugly old man scared a young chick and dick. So I tried to think of something that made me sick, and there it was. Sex with your parent. Now these old fucks can steal all they want, and they can go and pass laws saying you can't say what you want, you can't look at this and you can't look at that, and you can't smoke this, you can't snort that. Me, baby, I got statistics, I got stats. These people have been to bed with their parents. Now I know you're shocked, but hang and have a brew. If you think about it for a minute, you know that it's true. They're ashamed and repelled, and they don't know what to do. They've had sex with their parent. When they looked in their lover's eyes, they saw mom. In the name of family values, we must ask
who's family.
In the name of family values, we must ask Senator. It's been reported that you've had a legal Congress with your mother.
Sex with your parents?
Ah, Senator. An illegal Congress by proxy is a pigeon by any other name.
Sex with your parents.
Senators, you polish a turd. Here in the big city, we got a word for those who would bed their beloved big bird and make a mockery of our freedoms. Ah, without even using a condom. Without even saying no. By God, we have a name for people like that. It's... motherfucker.
Run.
Il serait temps de faire la rubrique des guides. Et j'ai oublié le jingle à la maison. Oh, aïe, aïe, aïe. Like a rolling stone, like the FBI. George, bon, je ne sais plus. Doris Day. Dig it. Bon, là, je fais un très mauvais John Lennon. Donc, vous allez devoir imaginer le jingle, la chanson des Beatles qui est sur la petite biche, je pense, qui s'appelle Dig It, et vous mettre dans l'ambiance. On a écouté Dennis Tech, là, un morceau de son album Take It to the Vertical, qui s'appelle Run Out of Water, et qui a bien l'ambiance Radio Birdman pour tous les nostalgiques de Radio Birdman parmi nous. L'album en question a dû sortir en 1992, donc c'est quelques temps après, hein, voilà. Mais Dennis Tech a toujours gardé, quelque part, la capacité de nous refaire cette espèce de mélange de Stooges et de surf qui caractérisait Radio Birdman. Donc, rubrique Digit, j'ai pas l'habitude de la faire, et je vais donc me concentrer sur quelqu'un que j'aime bien, et que j'avais découvert avant de découvrir Digit, mais qui était quand même un grand favori de Gilda Kospiak, de l'animateur principal de Digit, qui était Major Nixon. Major Nixon, toujours quelque part, il paraît qu'il fait de la radio maintenant. Mais il a quand même fait un certain nombre de disques après s'être plus... Enfin, il a fait un disque, en tout cas, après s'être plus ou moins pris sa retraite des concerts, qui s'appelle Whiskey Rebellion. Et ce Whiskey Rebellion, il y a un morceau qui est d'actualité maintenant. Ça s'appelle « You gotta be insane to fly in small private planes ». Donc, je traduis peut-être « Faut être cinglé pour voler dans des petits jets privés ». Alors ici, tout un tas d'accidents, hein. C'est très dangereux les petits jets privés, comme on a vu cette semaine avec Monsieur Prigogine. Alors, désolé, c'est des fans de Prigogine parmi les auditeurs. À vrai dire, j'espère que non, parce que c'est quelqu'un que je ne regretterai pas. Et donc, nous lui dédierons ce morceau de Mojo Nixon. « You gotta be insane to fly in small private planes. »
Well, you gotta be insane flying them small private planes. Look out, buddy, might be rain. Yeah, you gotta be insane flying them teeny tiny planes. Lord, quite a bitch to maintain. Now, you know, the senator's not the only one. It's a long, sad list, and it goes like this. Let me tell you, it's Stevie Ray Vaughan's long dead gone, and Patsy Cline blew her mind. Leonard Skinner exposed their innards. Yeah, Otis Redding got a lake bedding, and Buddy Holly's no longer jolly, and Randy Rhoads flew too low. And another thing, Ricky Nelson burned like Belson, and the Big Bopper was a very fast dropper. Amelia Earnhardt, Lord, she won't that smart. Oh, Davey Allison and Alan Kulwicki made NASCAR fans very sick, and Thurman Munson was not the smart one. Meanwhile, John Denver and Bill Graham saw the Grim Reaper, but they couldn't pay him. Mel Carnahan no longer eats Spam. And Richie Valens and Roberto Clemente were speaking Spanish on their way to the big empty. Hey, Aaliyah, I can't see ya. All the senator is dead, and Minnesota's oh so sad. But not as sad as when John took his big flight. Yes, Senator Paul Wellstone, man, that sucker should have stayed home. Instead of stumping the vote, ought to been out herding goats. Let me tell you, well, you gotta be insane to fly in them small private planes. What's the forecast? Well, might be rain. Yeah, you gotta be insane flying them itty-bitty planes. So expensive to maintain. Yeah, you gotta be insane. Gotta be insane. You gotta be insane to fly them small private planes. Woo!
Okay, we're gonna set you up for a boogie now.
Ah là là. Il faudrait que je m'arrange pour changer les réglages et pour pas avoir le début du morceau suivant. Je suis sûr que vous n'attendez qu'une chose, que je vous passe un peu de rock hongrois pompeux. Je sens l'enthousiasme qui monte dans le public. Et donc on va s'écouter du choral, ou chorol, ou je sais pas comment il faut prononcer, c'est le hongrois, j'ai un peu de mal. Avec leur premier album qui datait de 1980 mais qui était encore assez 70s, allez. Et il y a une petite intro à l'orgue. Voilà, ceux qui ont tenu le coup jusque-là commencent à vraiment s'inquiéter. Petite intro à l'orgue et puis le morceau lui-même qui s'appelle Qusetes Aparadichombol. Ça veut dire expulsion du paradis. Donc je note que Paradis Chombol, ça a quelque chose à voir avec le paradis. Ça me surprend toujours quand je reconnais un mot en magyar, parce que le hongrois, hein, c'est quand même pas de la tarte. Et voilà. Le groupe était mené par son chanteur-guitariste, Balázs Félénk. Mais la plupart des textes étaient écrits par Horváth Attila. Et donc, avec les textes écrits par Attila, on peut penser que ces musiciens-là ne fumaient pas beaucoup d'herbe. Le niveau est vraiment bas. Il vaut mieux encore écouter Choral.
We'll be right back.
Choral, donc, avec Expulsion du Paradis. Je ne sais même plus de lire en hongrois. Sur leur premier album, enfin, en tout cas, leur album éponyme, il n'y a pas de titre à l'album, qui est sorti en 1980. Où en étions-nous ? Eh bien, écoutez, on va se refaire un petit peu de Bernie Marsden avec UFO, mais cette fois-ci en public, avec une version donc de Boogie, aussi connu sous le nom de Boogie for George, qui est un morceau du premier album de UFO, cette fois-ci enregistré en public, devant un public, comment dire, c'est en Allemagne, je crois, dans un endroit qui s'appelait Recklinghausen. Voilà, Recklinghausen en 1973. C'était pas très longtemps avant que Bernie Marsden quitte le groupe UFO en leur fournissant son remplacement, hein, Michael Schenker. Boogie donc.
Okay, we're gonna set you up for a boogie now.
C'est pas le meilleur son du monde, hein.
Thank you. was up to Mark. I couldn't wait too soon. She laid me on the floor, right on my back. Yes, yeah, she laid me on the floor, right on my back. She sat on my face, right on the floor. Yes, yeah, she sat on my face. I couldn't ask for more. The
C'est peut-être ça qui a inspiré le groupe contemporain Endless Boogie. En tout cas, il y a une version live officielle de ce morceau Boogie sur l'album live de UFO, alors au Japon, je pense, qui était sorti avec le line-up d'origine avant qu'ils aient Michael Schenker, donc entre les deux premiers albums studio et l'album Phenomenon. Je crois que c'est le guitariste d'origine, donc les solos sont nettement moins compétents que ceux de Bernie Marsden, qui quand même savait s'y prendre. Il jouait correctement le blues, comme dirait Amon Pipin. Bien, écoutez, un peu de François Béranger. Bon, pourquoi pas un peu de François Béranger, après tout Sylvain vous en passe tout le temps. C'est toujours aussi chiant, on peut le dire, point de vue parole et point de vue... chant, hein. Mais bon, il avait son style, et il avait un groupe d'accompagnement qui savait s'y prendre, et de temps en temps aussi, quand même, des mélodies, pas très mélodiques, mais quand même des bouts de mélodies qui pouvaient rentrer dans la tête, un certain rythme, faut pas déconner. Les morceaux étaient coécrits avec Jean-Pierre Alarcène, célèbre guitariste, qui était avec lui, et je signale aussi que l'autre jour j'ai trouvé un 45 tours de son bassiste Gérard Cohen, mais bon, peut-être que ça restera une note de bas de page dans l'histoire, hein. En tout cas, ce morceau s'appelle Avril 1978, il a été enregistré en janvier-février 78, donc c'était avant les élections législatives de l'époque, où, vous savez, il y avait le programme commun de la gauche, oh, vous ne savez peut-être pas, c'était longtemps, c'était le dernier coup perdu par la gauche avant que Mitterrand gagne contre Giscard en 1981. Bon, à l'époque, il ne le savait pas encore, donc il envisage les deux éventualités dans sa chanson, il est pessimiste sur les deux, mais c'est Béranger. Je la passe parce que l'accompagnement musical est assez un peu plus de relief que d'habitude, un peu plus rock, disons, que d'habitude. Le groupe derrière semble vouloir parodier les Who, c'est assez rigolo. Donc voilà, François Béranger dans l'album Participe Présent, sorti en 78 bien sûr, et la chanson Avril 78.
Trace ses frontières, les uns s'arment de peur, les autres d'espoir. Demain nous donnera sa réponse claire. Ceux d'avant de toujours seront encore maîtres. Tripotant le pouvoir au fond des châteaux. Technocrates savants, nous changeons ton repos. Les promesses de mai ne sont plus que rêves. Un rêve de 10 ans, vieux c'est déjà vieux. Demain nous donnera sa réponse claire. Pas par millions ont-ils eu raison. De changer les clameurs, les coups, la violence en petits bulletins dans une urne sans fond. Si nos maîtres de main sont toujours les mêmes, bon comédien et bardé de flicaille. Demain nous donnera sa réponse claire. Après mars et avril, c'est le mois des clameurs. Des millions en ont marre d'être des cocus.
des millions qu'on en marre, ça peut faire du chahut. Demain change de figure. Il brûle avant tout toutes les ordures. Demain nous donnera sa réponse claire. On les met en avant, tous les gens s'en ont. Qu'on les hisse, qu'on les pousse, qu'on leur mette en main leur propre destinée, et puis on verra bien. Dans mes mots maladroits se cache la peur de ne plus espérer ni en vous ni en moi. Réponse claire. Quand la fête est finie, le lendemain vient. Quelle fête ferons-nous de ces lendemains? Quelle vie nous ferons-nous avec nos propres mains?
François Béranger, donc avril 78 sur l'album zut, comment ça s'appelle, Participe présent, voilà. Bon, vous êtes en train de vous demander ce que je suis en train de fabriquer. Bon, pas grand chose, parce que naturellement j'ai oublié de caler correctement le jingle de La Mort qui Tue, mais non, je l'ai récupéré, soyez heureux. Voilà, Fromage de Chèvre ce soir, un album qui m'a été donné par Louis Fine, que je remercie. Il m'a trouvé sous la livrée plutôt infamante d'habitude d'une série de double albums à bas prix de folklore ou je ne sais quoi. Un album de folklore occitan remontant en 67, réalisé par les Ballets de Toulouse. Et les Ballets de Toulouse, c'était Françoise Dague, c'était quelqu'un qui est une sorte de, comment dire, on dirait seminal en anglais, de source fondamentale pour un peu tout ce qui a suivi le Conservatoire Occitan et les recherches sur le collectage d'instruments, le collectage de mélodies. Toutes les recherches sur la musique traditionnelle occitane, langue d'Occitane, mais pas seulement langue d'Occitane, gasconne, Auvergnate, tout ce que vous voulez. C'est de l'Auvergnat d'ailleurs qu'on va s'écouter avec La Pastour, mais c'est les Auvergnats donc ils prononcent Lo Posturo, et donc ça s'écrit sur le disque L-O-P-O-S-T-O-U-R-O, mais c'est Lo Posturo. Et c'est classique, c'est une histoire de bergère. Et les bergères, qu'est-ce qu'elles font? Elles gardent leurs moutons, et quand elles gardent leurs moutons, il y a des vieux monsieur riches et lubriques qui viennent leur proposer des choses pas honnêtes. En général, les bergères, elles envoient paître. C'est un peu leur travail. Bon, L'Opostour, donc, par les Ballets Occitans de Toulouse en 1967. Ça doit être le vinyle numéro 1. Allez, petit problème de stéréo avec le vinyle numéro 1. Désolé.
Quand le pastour s'éveille et chante,
Françoise Dagg, qui est probablement celle qui chante et qui est un peu à l'origine aussi de la carrière quelque part de Rosina de Peiro, qui nous a quitté il y a 2-3 ans, là, qui était la grande référence du chant occitan, en tout cas autour de Toulouse. Les Bébinosaures, c'est terminé. Les Bébinosaures, ça revient. Les Bébinosaures, c'est tous les dimanches soirs sur Canal Sud 92.2 MHz de 21h30 à 23h. Vous pouvez aussi nous écouter sur les bons sites de streaming de radio. On nous trouve. Je ne sais pas si je peux vous recommander le site de Canal Sud qui a, semble-t-il, toujours des problèmes, j'ai pas vérifié récemment, mais enfin je vous redonne l'URL à tout hasard, www.canalsud.net. Il existe une page Facebook des bébés dinosaures sur laquelle vous pouvez récupérer pendant un temps limité les MP3 des émissions. Vous avez aussi une rediffusion tous les lundis, 8 jours après l'émission d'origine, donc celle-ci sera rediffusée le lundi 4 septembre. Mais en attendant, il y aura des émissions en direct les dimanches 3 et 10 septembre qui seront assurées par Sylvain en solo, donc il n'y aura pas de Deep Purple, ça je peux vous fiche mon billet. Et il y aura peut-être un peu plus de soul et de funk que dans cette émission-ci, et du proto-punk sûrement aussi, un peu plus aussi, voilà, donc laissez traîner vos oreilles, on se retrouvera ensemble, Sylvain et Tommy Boy, pour le 17 septembre, si tout va bien, hein. La vie n'est-elle pas belle ? La vie est complètement belle quand on se passe le jingle de fin des bébés dinosaures. Ouais, bien alors.
To come back. I want him to come back.
Don't go away.
Yeah.